Bonjour, c'est Sabrina Di Matteo au micro de Foi et Turbulence. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Florence Pache-Guignard, qui est professeure adjointe à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval à Québec. Elle a été auparavant chargée de cours à la Toronto Metropolitan University, après avoir fait un postdoctorat à l'Université de Toronto et Fribourg, et elle est docteur ès lettres en sciences des religions de l'Université de Lausanne. Elle est donc d'origine de la Suisse et elle a été embauchée à l'Université Laval juste avant le début de la pandémie en 2020, et elle s'intéresse et elle enseigne autour des champs de recherche qui concernent les femmes, les religions, la maternité, les religions orientales. Alors, c'est une semaine parfaite pour s'entretenir avec elle. Donc, Florence, bonjour, bienvenue à
Oui,
l'émission.
merci, merci de me recevoir.
Alors, parlez-nous un petit peu plus de ces champs d'intérêt que vous avez, donc spécialiste là, autour des femmes et des religions particulièrement.
Oui, c'est ça. J'ai été engagée à la faculté de théologie et de sciences religieuses, en particulier pour des cours sur femmes et religions. Et cela fait bientôt 20 ans que je m'intéresse à ça dans mes recherches. Donc, j'ai fait ma thèse sur des figures féminines en relation avec des dieux, avec des approches en sciences des religions. Donc, je préciserai tout de suite que je ne fais pas de théologie, même si bien sûr j'aime beaucoup dialoguer avec des théologiennes, des théologiens. Donc je m'intéresse beaucoup à des sujets là autour et mes champs de spécialisation premiers sont d'abord le monde de l'Inde et en particulier l'hindouisme et les traditions dévotionnelles de l'Inde, en particulier médiévale. Alors ça change beaucoup de travailler dans un contexte où je suis dans cette faculté-là la seule qui s'intéresse à ça, mais je travaille aussi de façon assez large. J'aime beaucoup le comparatisme en histoire des religions et j'aime bien aller chercher pour les cours des exemples qui tombent en dehors de mes champs de spécialisation. Et c'est aussi pour ça que je me suis intéressée aux questions des femmes et des religions dans le contexte québécois, également parce que mes étudiantes arrivaient avec des questions là-dessus.
Et comme professeur, justement, bon, venant de l'extérieur, vous avez, j'imagine, dans les dernières années, appris à découvrir, cette histoire du christianisme, du catholicisme en particulier au Québec. Qu'est-ce que vous avez pu constater, et qu'est-ce qui vous a mené, parce qu'on va en parler, c'est le cœur de notre entrevue. On va parler ensemble d'un cours que vous offrez, un cours d'été, qui s'appelle Femmes, Communauté religieuse, pardon, femmes, communauté, association religieuse au Québec, spiritualité et sororité. Alors, c'est un thème assez précis qui va venir toucher des questions, justement de l'histoire de contribution des congrégations religieuses féminines au Québec, mais pas seulement. Alors, je vous demande d'où est venue l'idée, comment vous avez approché ce thème, comme néo-québécoise, si je puis dire.
Oui, c'est ça. Donc, je ne suis pas non plus spécialiste de toutes ces choses-là, mais effectivement, en arrivant au Québec depuis l'Ontario, où je suis restée quand même quelques années, eh bien, je n'avais que très, très peu de connaissances sur cette histoire spécifique du Québec. Et je voulais vraiment intégrer ça également dans mon cours Femmes et Religions, dont le mandat, si je peux dire ainsi, n'est pas géographique. Donc, c'était vraiment quelque chose où je pouvais prendre des exemples de partout. Et j'ai cherché dans des traditions de l'Inde, de l'Afrique, toujours en situant ces exemples. Et je me suis efforcée de mettre des exemples locaux. Parce que pour moi, c'était important que les étudiants et étudiantes qui suivent ce cours comprennent que toutes ces thématiques qu'on aborde dans le cours Femmes et Religions, par exemple celle de l'autorité, du pouvoir, du leadership féminin dans les mouvements religieux, de la représentation des femmes dans les récits sacrés, dans les mythes et ainsi de suite, eh bien que tout ceci n'était pas seulement quelque chose de pertinent pour des religions du passé ou des religions d'ailleurs, mais qu'on trouvait parfois des mêmes problématiques dans le monde contemporain et au Québec, à travers son histoire et aussi dans ce qui se vit aujourd'hui autour de débats, par exemple les débats autour de la laïcité, les débats sur le patrimoine religieux, que faire du patrimoine religieux, et ainsi de suite. Donc, je me suis efforcée d'aller chercher des exemples locaux, des exemples très divers. Par exemple, dans le cours, on parle de Marie de l'Incarnation, on parle des Ursulines, on parle des auxiliatrices, les auxiliatrices des âmes du purgatoire, et ainsi de suite, sur lesquelles il y a eu des documentaires. Donc, j'ai vraiment cherché des exemples variés qui sont tirés de ce contexte québécois. Et sans négliger cependant aussi la question des minorités religieuses. Donc, j'essaie de faire tenir tout ça dans le cours Femmes et Religions, et il m'est apparu que finalement, il y avait de quoi repenser la focalisation du cours. Et puis faire un cours sur femmes, communautés et associations religieuses au Québec est une proposition que j'ai faite à la direction de programme et au comité, donc qui décide quel cours on peut donner, ou d'après nos suggestions, bien sûr. Et ça a reçu un très, très bon accueil. Donc j'ai eu ce cours ensuite qui m'a été attribué. J'ai pu construire ce nouveau cours et également aller chercher de quoi tenir dans le cadre du cours un colloque scientifique. Donc c'est vraiment les deux qui sont intégrés. Je peux
Alors
parler un petit peu plus du cours si vous le souhaitez.
absolument. Donc ça va être c'est une manière de focaliser un peu plus dans ce cours sur la contribution, par exemple, de congrégations religieuses à la construction sociale du Québec, mais aussi d'aller voir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que des femmes dans différentes traditions religieuses s'associent entre elles pour vivre leur foi ou pour se mobiliser dans des œuvres, par exemple. Je suis juste curieuse comment puisque vous êtes dans le fond aux premières lignes d'un enseignement auprès d'une clientèle étudiante dans la jeune vingtaine ou la vingtaine qui est peut-être elle-même en train de redécouvrir ce patrimoine ou j'oserais dire ce matrimoine religieux. Est-ce que vous constatez qu'il y a une sorte de qu'il y a eu une rupture, qu'il y a une perte de mémoire vis-à-vis ça?
Oui, je pense qu'on peut le dire ainsi. Et en fait, j'étais très étonnée quand j'ai appris là, au cours de ces dernières années à mieux connaître les étudiants et les étudiantes du Québec. N'étant pas d'ici, évidemment, j'ai dû me familiariser avec leur niveau, leurs connaissances préalables, ce que je peux attendre d'une étudiante qui arrive dans un de mes cours. Et j'étais surprise que beaucoup d'entre elles, en fait, n'ont pratiquement pas ou très peu de connaissances sur les religions. Et une chose qui m'a frappée, c'est que dans ce cours Femmes et Religions, m'arrivaient beaucoup d'étudiantes qui sont inscrites dans un certificat sur féminisme, genre et société. Donc elles ne sont pas inscrites dans notre faculté, elles sont dans d'autres programmes à l'Université Laval et on leur permet de suivre ce cours en particulier parce qu'il aborde la question des femmes en lien avec toutes les questions religieuses. Et j'ai trouvé que ça avait un écho chez elles et souvent, elles repartent du cours avec une vision changée sur les religions et peut-être même sur le catholicisme en particulier. Et mon constat, c'est qu'elles, en fait, ne connaissent, évidemment, il y a des exceptions toujours, mais la plupart n'ont que très peu de connaissances, même factuelles, sur le christianisme, le catholicisme, l'organisation même de l'Église catholique romaine, ses relations avec d'autres traditions, et ainsi de suite. Donc, c'est parmi les points que l'on aborde dans le cours, aussi de façon comparatisme, par exemple, en ce qui concerne le leadership religieux féminin. Donc voilà, donc il y avait ce constat-là que les étudiantes en fait ne connaissent pas forcément cette histoire, ce matrimoine. Il n'y a pas eu de transmission de façon systématique, mais il y a un intérêt, il y a une envie d'en savoir plus, il y a une envie de se dire, eh bien, ces questions-là qu'on pose autour de ces thèmes, on peut les appliquer également au contexte québécois.
Exactement.
Alors,
Et c'est ce que ce cours d'été va permettre de faire. Donc, je rappelle son titre, Femmes, communautés, associations religieuses au Québec, spiritualité et sororité. Et précisons donc que c'est un cours d'été de 45 heures et non pas, comme on en voit parfois, des
exact.
formules, une école d'été intensive.
C'est pas une école d'été. J'ai
C'est ça.
organisé plusieurs écoles d'été. C'est aussi ça qui m'a donné envie de ne pas faire une école d'été, mais d'avoir une structure assez particulière. C'est-à-dire qu'on aura d'abord des séances synchrones en ligne, et ce sera vraisemblablement tous les mercredis. Et dans ce cadre-là, on aura des conférences invitées avec des spécialistes ou des personnes de milieu de pratique qui vont nous parler de thèmes très spécifiques qu'elles ont étudiés ou dans lesquels on va dire, elles participent activement en tant que citoyennes, en tant que personnes engagées. Par exemple, on aura une conférence sur la violence conjugale, une autre va porter sur les conséquences de la loi 21 pour les femmes musulmanes au Québec, une autre portera sur le réseau Femmes et Ministères, que peut-être certains des auditeurs et auditrices connaissent déjà. Et également, on aura une dernière conférence sur la Wicca, les communautés Wicca. Donc, c'est une forme très particulière de religiosité, pas si émergente que ça, mais peut-être moins connue que d'autres grandes traditions. Et voilà, donc on aura ces conférences-là invitées qui seront aussi accessibles au grand public sur inscription. Tout ça se fera donc sur Zoom par vidéoconférence.
Voilà, donc en fait, cette portion du cours qui va se passer dans le mois de mai cette année, elle est entièrement virtuelle et les
C'est
gens
ça.
pourront donc suivre, même s'ils ne sont pas proprement à Québec,
C'est ça.
et voilà, progresser là, avec des modules à lire ou des vidéos à visionner et en plus
Exact.
se rencontrer à des moments, des plages déterminées avec le reste du groupe.
Voilà, c'est ça. Donc, pour les étudiantes et étudiants inscrits seulement, il y aura toute une partie dite asynchrone où là, nous avons préparé des modules pédagogiques avec toutes sortes de contenus, des articles à lire, des articles de contextualisation de façon très accessible pour des étudiants de même de premier cycle. En plus de ça, on a des conférences, quelques rencontres où nous serons seulement entre étudiantes et étudiants. Et après ça, on passera à 5 jours intensifs, on va dire comme ça, à Québec en présentiel.
Et ça va se passer au mois de juin. Donc là, il y a une option.
Exact.
Alors pour les personnes qui sont inscrites comme étudiantes au cours, elles participent automatiquement et obligatoirement à cette semaine à Québec. Et là, ça, qu'est-ce qui va se passer dans cette semaine intensive? C'est des visites, c'est des voilà, vous avez mentionné un colloque aussi.
Oui, c'est ça, on a un magnifique programme et peut-être que je pourrais préciser d'emblée que le cours est donné à l'Université Laval, mais il est ouvert à tous les étudiants et toutes les étudiantes des universités québécoises. Donc, il y aurait moyen de faire, moyennant des autorisations, reconnaître ce cours comme contributoire à certains parcours en sciences et religions, en sciences humaines et sociales, en histoire et ainsi de suite. Donc, les personnes qui suivent le cours vont venir à Québec en présentiel du dimanche 16 juin jusqu'au jeudi 20 juin. Donc, on a 5 jours de file à Québec et nous avons un programme très riche, très rempli. Par exemple, le dimanche, nous allons visiter le pôle culturel des Ursulines à Québec et ensuite nous visiterons le monastère des Augustines. Donc ça va déjà nous remplir une première journée de dimanche. Le lundi matin, il est prévu que nous nous déplacions à Wendake pour avoir un atelier ou une transmission de connaissances sur les femmes autochtones et en particulier les femmes Wendat avec des personnes de la communauté qui seraient bien évidemment impliquées pour voilà, sensibiliser aussi les étudiantes et étudiants à des réalités des femmes autochtones aujourd'hui de façon contemporaine, mais évidemment avec aussi un retour un peu historique. Après ça, on ira visiter les Sœurs du Bon Pasteur, qui ont une forme, une salle d'exposition où nous serons reçus pour aussi peut-être dialoguer avec une personne de la communauté. Ensuite, on arrive déjà au mardi. Mardi et mercredi, on a un colloque scientifique dont je pourrais dire aussi quelques mots après. Et là, les étudiantes et étudiants vont participer de façon très active. C'est pas juste s'asseoir puis écouter des universitaires qui partagent leurs recherches. On va impliquer les étudiantes. Elles vont devoir parler, faire des petites synthèses de ce qu'elles auront retenu, ce qu'elles auront pensé, des visites qu'on aura déjà faites, des conférences déjà entendues. Donc c'est vraiment actif, c'est vraiment participatif. Enfin, c'est comme ça que je conçois cette pédagogie, de vraiment impliquer les étudiantes pour qu'elles aussi donnent leurs avis, posent leurs questions, soulèvent d'autres thèmes et ainsi de suite. Et après ça, il nous restera un jour de cours d'été intensif en présentiel. Ce sera le jeudi 20 juin. Et ce jour-là, il est prévu qu'on visite le centre d'Ina Bélanger, où nous aurons une visite et là aussi peut-être une rencontre avec une religieuse de la communauté. Et ensuite, on va retourner au campus et on aura du temps pour discuter de ce qu'on aura appris, de ce qu'on aura peut-être vécu. Parce que une chose que je voudrais dire aussi, c'est voilà, on a un objectif scientifique avec le cours. Avec le colloque, on veut transmettre des connaissances, on veut faire de la diffusion de recherches et ainsi de suite. Mais un autre objectif, peut-être secondaire, mais qui pourrait être aussi très important, c'est de donner un espace de discussion, d'offrir une plateforme où des femmes de différentes traditions religieuses, de différentes communautés vont pouvoir se rencontrer, dialoguer, échanger, et aussi des femmes de plusieurs générations. Comme vous avez mentionné, c'est vrai que beaucoup d'étudiantes sont dans la jeune vingtaine, mais pas que. Il y a des profils très diversifiés. Mais l'idée, c'est de mettre aussi en dialogue des femmes et des hommes de différentes générations sur ces questions-là, aussi de l'importance du religieux dans la société contemporaine, de ce qui a changé, de comment certaines transmissions se sont faites, se sont pas faites, de que faire de ces héritages, de ces matrimoines autour de thèmes. On va dire structurant, et là pour le colloque, on en a gardé trois, Il y a trois axes, si vous voulez, thématiques. Le premier, c'est la question de la santé, les soins de santé. Et là, on peut penser évidemment aux hospitalières et à d'autres groupes religieux. On peut penser au thème de l'éducation. Donc, toutes les congrégations où les religieuses étaient aussi des institutrices, des enseignantes. Et enfin, le troisième axe, un thème récurrent qui sera aussi discuté au colloque, c'est celui de la justice sociale, c'est-à-dire l'engagement de groupes de femmes pour plus de justice sociale dans un contexte local québécois.
Donc, c'est vraiment oui, une semaine complète qui promet à la fois des échanges, de l'intégration, des questions, le rayonnement des recherches actuelles qui concernent les femmes de manière transversale dans toutes sortes de questions et des religions, bien sûr, et comment elles s'organisent et se mobilisent. Dans les quelques minutes qui nous restent, je vous demanderai de nous dire un peu comment. Alors, je pense que les inscriptions sont pas déjà ouvertes, mais les personnes qui s'intéressent à ce cours, qui voudraient le signaler à leur entourage ou se tenir au courant là, des modalités d'inscription éventuellement, elles peuvent le faire comment?
Oui, c'est ça. Vous pourriez consulter le site web de la FTSR. Donc, notre faculté, c'est ftsr.ulaval.ca. Et dans la section Actualité, événements, vous allez trouver tous les liens qui ramènent à des pages web où nous avons mis l'entier du programme sous réserve de modification, tout ce qui est disponible des deux journées du mardi 18 et du mercredi 19 juin. Donc, ça se passe à Québec, au campus de l'Université Laval. C'est sur inscription. Le colloque est payant, mais il y aura aussi des activités gratuites dans le cadre du colloque, dont une conférence publique le mardi soir et également la projection d'un film le mercredi soir. Vous pouvez regarder tout ça sur le site web et vraiment, toutes les personnes sont les bienvenues à venir assister à ce colloque. Les étudiants et étudiantes de toutes les universités au Québec peuvent demander à s'y inscrire.
Voilà, et il y a des opportunités aussi pour certaines occasions durant le cours ou le colloque pour que le grand public puisse aussi participer à des conférences qui seront soit web diffusées, soit sur place à Québec.
Oui.
Exactement. Alors, ben, c'est fantastique. Je pense que je suis vendue à l'idée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous accorder cette entrevue, de nous avoir donné tous ces détails et je vous remercie aussi de votre intérêt pour accompagner la mémoire et la réception de tout cet héritage pour que des personnes aujourd'hui, notamment des femmes, des jeunes femmes, des étudiantes puissent se concevoir aussi comme héritières de tout cela. Alors, merci beaucoup, professeur Florence Pache-Guignard. Je rappelle que vous êtes professeure adjointe à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Et nous mettrons évidemment en ligne sur le site web de Présence Information Religieuse les liens pertinents pour que nos auditrices et auditeurs puissent s'informer.
Merci
Merci.
beaucoup.
Au plaisir
Merci.
peut-être d'un prochain entretien.
Très volontiers.
Au revoir.